Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. C'est une tradition dans cette émission. Quand Bernard Werber sort un roman, on le reçoit. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son troisième tome, de son cycle des chats. Les rats ont pris le pouvoir sur la planète. Les chats pourraient bien nous sauver la mise. Je vous annonce la suite du programme quand même. Le roman culte, bien sûr, nous lirons la première page de La planète des singes de Pierre Boulle, un écrivain injustement oublié, effacé par l'adaptation de son œuvre au cinéma. Nous visiterons la bibliothèque du philosophe André Comte-Sponville. Nous irons nous balader dans une librairie comme toujours. Et ce grand enfant de Victor Doland fermera la boutique avec son roman jeunesse. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
Tout le monde veut devenir un gâte, parce que chaque quand il est gâte retombe sur ses pattes.
C'est vrai,
tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé.
C'est comme les bottines à...
Alors non, on ne va pas parler de Disney et des Aristochats, mais des chats, tout court, de Bernard Werber. De retour avec le troisième tome des aventures de la chatte Basse-Tête. On a eu « Demain les chats », un hommage à un roman de science-fiction de Clifford Simak qui s'appelait « Demain les chiens ». Ensuite, on a lu « Sa majesté des chats », référence évidente à « Sa majesté des mouches ». Et voici le troisième et peut-être dernier,
oui. «
La planète des chats », qui fait écho à « La planète des singes » de Pierre Boulle. Je vous rappelle l'histoire du cycle. L'espèce humaine a quasiment disparu. Les rats essayent de dominer le monde. Mais Basse-Tête, la reine des chats, décide de coaliser toutes les espèces pour lutter contre les rongeurs malfaisants. Il faudra lire les deux premiers tomes. Mais sachez donc que dans ce troisième volume, qu'on peut lire au passage, on peut commencer par lui éventuellement, tout est conçu comme ça. Basse-Tête et les siens, en tout cas, arrivent en Amérique. Cette fois-ci, d'ailleurs, la couverture superbe et sans équivoque, on y voit la statue de la liberté, sauf que la tête humaine a été remplacée par une tête de chat. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Alors, Basse-Tête arrive en Amérique sur un voilier pour fuir les rats, mais il se trouve qu'il pullule autant à New York qu'à Paris. C'est un peu l'arche de Noé ce bateau d'ailleurs. Il y a 144 chats, 12 humains, 65 porcs, 52 chiens et un perroquet. Mais il y a une hiérarchie là-dedans, attention.
Oui, ben, de toute façon, vu que la narration est faite par Basse-Tête, une chatte, elle considère que les chats sont au-dessus de tout et que les autres ne sont là que pour au mieux les servir, à commencer par les humains qu'elle appelle ses serviteurs.
Voilà. Nathalie, sa servante. Ce qui est assez logique, parce qu'elle lui fait sa pâtée, elle lui rend des petits services,
toute
elle lui ouvre la
porte. Toute personne qui a un chat sait que nous sommes au service de nos chats et surtout pas le contraire, puisque c'est eux qui décident quand il faut faire quoi.
Alors, les chats sont les maîtres et l'idée, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe si les humains disparaissent finalement, ou presque. Qui gagne ? Et pourquoi est-ce que vous choisissez les chats ou les rats, d'ailleurs, puisque les deux sont rivaux et donc presque égaux ?
Ben précisément parce que normalement, l'espèce la mieux placée pour prendre notre succession, c'est les rats, parce que, par exemple, sur Paris, il y a deux rats par habitant. Il y a des rats qui commencent à s'aventurer hors des égouts et hors du métro pour attaquer dans les jardins, notamment les jardins d'enfants. Donc ça, c'est des choses réelles qui se passent de nos jours. Donc on a l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux, qu'ils sont cachés sous terre et qu'ils peuvent émerger pour peu que les ordures s'accumulent parce que nous n'avons plus de système administratif qui fonctionne ou pour peu que l'homme arrête de tout contrôler. À ce moment-là, la seule parade face au rat, c'est son prédateur naturel qui est le chat. Et donc, c'est une vieille guerre qui a commencé il y a plus de 10 000 ans entre les rongeurs et les félins qui se poursuit de nos jours suite à l'effondrement de notre civilisation.
Il y a une guerre entre eux, mais on comprend aussi que ce sont eux qui nous remplaceraient si on n'était plus là. Pourquoi eux ? Pourquoi vous n'avez pas choisi les toucans ou les lions ou les moineaux ?
D'abord parce qu'à force de vivre avec nous, ils ont peut-être compris des choses sur nous. Ensuite, parce qu'ils sont intelligents. Le toucan, pour l'instant, n'a pas été vraiment testé dans les tests de labyrinthe, n'a pas vraiment performé.
C'est qu'on n'a pas essayé.
On a essayé sur la pieuvre, mais bon, la pieuvre va avoir du mal à sortir de l'eau. Mais
ah oui, la pieuvre est très intelligente.
Très intelligente, oui. Mais le chat est dans le top 10 des animaux performants dans tous les tests. Donc, le rat est d'ailleurs normalement devant lui. C'est-à-dire, les rats sont plus débrouillards en labyrinthe que les chats. Mais il me semble logique que les chats, à force de vivre avec nous, puissent comprendre certains de nos systèmes au point de les reproduire.
Alors justement, comprendre, il y a le problème de la communication que vous êtes sans doute posé au tout début du cycle d'ailleurs. Comment faire pour que les espèces puissent discuter entre eux, pour qu'on puisse tous se comprendre finalement? Et vous avez inventé une sorte de dispositif électronique. Vous allez nous expliquer comment ça marche. On le retrouve là dans ce tome-là. Et surtout, est-ce que c'est inspiré d'une vraie technologie? Est-ce que potentiellement on pourrait discuter entre chats, hommes, humains, chiens, etc.?
Alors, comme vous le disiez, c'est inspiré d'une vraie technologie parce qu'on a implanté notamment des électrodes à l'intérieur du cerveau des chats pour étudier le rêve. Et c'est comme ça notamment qu'on a découvert le sommeil paradoxal. C'est une découverte française. Il s'avère que le chat est l'animal qui dort le plus, 12 heures, alors que nous dormons 8 heures en moyenne. Donc il passe la moitié de son temps à dormir. Tous ceux qui ont des chats ont pu s'apercevoir que ça roupille un max, un chat, mais ça rêve énormément. Et donc toutes les études qui ont été faites sur les rêves ont été faites à partir de ces sondes qui ont été mises dans leur cerveau, ce qui fait qu'ils ont une prise. Dans mon roman, c'est une prise USB, mais dans la réalité, c'était des prises encore à broche sur les premières expériences qui ont été faites en 1960, donc c'est quand même il y a longtemps. Et depuis, vu que beaucoup de recherches sont faites sur le cerveau, on utilise les rats et les chats pour les expériences. Et donc, on leur met ces prises USB comme celles qu'a mon héroïne. Par rapport à la question, est-ce que ces prises pourront servir un jour à parler avec le chat? Moi, j'en suis persuadé parce que l'intelligence artificielle fait avance tellement vite qu'il y a un moment où on saura associer certains sons et certaines émotions à des phrases ou à des émotions compréhensibles par les deux espèces. Donc, je crois que d'ici 5 ans, on pourra parler à notre chat. Oui, c'est une conviction personnelle.
J'avais vu une expérience de scientifiques qui ont inventé un traducteur pour parler avec des dauphins. Et alors, ils arrivaient juste à dire quelques mots, hein, mais on comprenait, je veux du poisson, des choses comme ça.
Le langage des dauphins est le plus étudié actuellement. Ah. On sait reconnaître le moment où les dauphins se nomment entre eux. C'est-à-dire, quand un dauphin rencontre un autre dauphin, il commence par dire son nom. Et puis après, quand il s'adresse à l'autre dauphin, il signale « je te reconnais comme étant supérieur, égal ou inférieur à moi ». Donc toutes ces choses-là ont été analysées. Et je suis aussi le langage sur les dauphins qui est en effet beaucoup mieux maîtrisé que le langage sur les chats, enfin la communication avec les chats.
Alors pour l'instant, les rats dominent la surface de New York, la surface au sens propre, c'est-à-dire qu'ils sont partout au sol. Et tout le monde, les humains qui restent, et puis donc maintenant les chats, etc., sont réfugiés dans un gratte-ciel et ils sont confrontés quand même à un problème. C'est bien de savoir parler et de pouvoir communiquer entre espèces. Le problème, c'est que ça ne permet pas non plus de se mettre d'accord sur les décisions à prendre. Chacun a des aspirations différentes entre espèces, mais entre individus de même espèce, etc. C'est de la géopolitique, en fait, ce roman. C'est toujours pareil avec vous. C'est-à-dire que vous nous servez une histoire bien faite, mais derrière, évidemment, ça pose des questions vertigineuses.
Il y a toujours un avantage aux plus violents et aux plus hiérarchisés. Et là, il s'avère que si on regarde les espèces les plus organisées, ce sont les rats. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il y avait deux rats par parisien. Ben, ces rats, ils sont organisés avec des chefs, avec ce que j'appelle des barons, et avec des rois. Et ce système d'hiérarchie leur donne une unité et la capacité de monter une armée. Ça, c'est pas du délire héroïque fantasy, c'est du réel. Ça, c'est de nos jours. J'ai pu écrire des articles quand j'étais journaliste scientifique sur l'apparition des hiérarchies chez les rats. Et je peux vous garantir que c'est des systèmes assez similaires à ceux des tyrannies humaines. Et ça fonctionne sur la violence, sur la peur et sur l'élimination des faibles. Donc, j'ai utilisé cet exemple pour réfléchir sur la tentation qu'ont nos sociétés à retomber dans le système de type dictatorial. Il suffit de regarder d'ailleurs actuellement ce qui se passe en géopolitique, puisqu'on parle de géopolitique. On ne voit pas que ce soit en Chine, en Russie et en Turquie, par exemple, des dictateurs qui ont décidé qu'il n'y aurait plus d'élections et que leur règne sera jusqu'à leur mort. Et il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc s'il apparaît ces tyrans dans certains pays, pour les contrer, il va apparaître d'autres tyrans. Et j'ai l'impression que c'est un avertissement que je dois donner. C'est attention à notre tendance à nous comporter comme des rats. Sinon, on va finir par vivre aussi comme eux.
Mais on a du mal à se mettre d'accord aussi chez les résistants. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est démocratique. Au contraire, peut-être, c'est encore plus compliqué de communiquer, d'arriver à un consensus.
Bah, c'est comme ça que Jules César a envahi la Gaule. Il a dit ils sont plus nombreux que moi, mais ils n'arrêtent pas de se taper dessus, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Résultat, je rentre dedans comme dans du beurre. C'est traduit en latin différemment.
C'est drôle parce que vous venez d'illustrer ma prochaine question. Ah. J'allais vous dire que, comme toujours, le roman est émaillé d'articles tirés de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu qui, comme ça, arrivent, surgissent dans le roman. Vous nous rappelez ce que c'est que cette encyclopédie ?
Ah, c'est tous les trucs rigolos que je découvre et qui permettent d'avoir un peu de perspective par rapport au texte. C'est-à-dire, en effet, je vais parler de la guerre des chats et des rats, et puis je vais parler des Romains et de la guerre de César et des Gaulois pour montrer que ce qui se passe chez les animaux ou ce qui se passe dans le récit, en fait, n'arrive pas par hasard. C'est une référence à d'autres événements. Donc, je fais des événements historiques. Enfin, je mets des extraits d'encyclopédies historiques ou scientifiques.
Et c'est une encyclopédie que vous avez inventée et qu'on suit depuis le début de votre œuvre. Mais on va y revenir dans un instant. Pour l'instant, on va se faire un petit schéma et on se retrouve tout de suite.
D'accord.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Bernard Werber, qui publie La planète des chats, troisième volume de son cycle des chats. Les humains ont été décimés sur la planète, ce sont les rats qui prennent le pouvoir, mais la résistance est organisée, notamment par Bastet, la reine des chats. Nous sommes à New York, où les humains ne touchent plus terre, littéralement. C'est la seule manière d'échapper aux rats, Bernard Werber. Il faut prendre un peu de hauteur, ils ne savent pas trop grimper.
Oui, parce que tout simplement, New York a cette spécificité d'être une ville verticale. Et moi, quand je suis à New York, je me sens écrasé par les bâtiments. Alors, je me suis dit, si jamais les rats occupaient la surface, la seule manière qu'auraient les humains de leur échapper, c'est de tendre des tyroliennes, des câbles entre les buildings et de circuler en tyrolienne d'un building à l'autre. Et j'aimais bien cette idée, ce visuel, me semblait un visuel très cinématographique, des gens en train de circuler de building à building, du 150e étage d'un endroit au 120e étage d'un autre, en se disant que s'ils lâchent et s'ils tombent en bas, c'est rempli de rats.
C'est mauvais. Alors, au départ, Bastet, donc l'héroïne, était un peu méprisante avec les humains. Elle l'est toujours un peu,
oui. Hein.
Mais donc elle appelle Nathalie sa maîtresse, elle l'appelle sa servante, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'elle lui prépare sa pâtée, etc. Elle est à son service. Hein. Et puis, mais elle est trouvée surtout un peu idiot, ces humains, à s'entre-déchirer, à s'entre-tuer comme ça. Elle évolue quand même un peu.
Ben, elle devient plus tolérante avec l'âge. C'est le privilège de l'âge, c'est qu'au bout d'un moment, on juge un peu moins ses semblables. Et mon héroïne, Bastet aussi, au bout d'un moment, se dit « Bon, ok, ils sont un peu concons, les humains, mais on va devoir faire avec eux parce qu'ils ont cette chose extraordinaire qui nous manque, à nous les chats, les mains. » Elle est fascinée par cette sorte de pieuvre à cinq tentacules qui termine tous les bras des humains, qui leur permet d'ouvrir notamment les poignées des portes et qui leur permettent de manipuler des objets complexes.
C'est intéressant parce qu'elle a le même itinéraire intellectuel que l'humanité a eu envers les autres espèces. Quoi. C'est-à-dire qu'au départ, les animaux, c'est des machines. Quoi. Enfin, c'est
En matière première,
voilà,
la viande.
C'est tout à fait négligeable et puis petit à petit, quand même, on avance là-dessus.
Il y a encore du travail avant de considérer les animaux comme des êtres égaux. Là, pour l'instant, on est en train d'éliminer beaucoup d'espèces très très vite. C'est aussi l'un des thèmes du roman, c'est on a peut-être intérêt à préserver la vie sauvage et à préserver les autres formes de vie parce qu'un jour, on risque d'en avoir besoin. Ça peut se retourner.
Et Bastet, elle a quand même aussi un penchant pour le pouvoir. Et puis en plus, elle détient la connaissance d'une certaine manière. C'est une arme, ça, la connaissance, mais avec les défauts et les qualités que ça implique. C'est toujours pareil, comme toutes les armes, ça dépend ce qu'on en fait. Et dans le cas de Bastet, quand même, elle a cette propension à un peu à vouloir prendre le pouvoir sur tout et tout le monde, et toutes les espèces.
C'est une chatte mégalomane, narcissique, de mauvaise foi, et considérant que tous les êtres sont là pour la servir. À partir de là, elle est dans sa logique. Vous savez qu'en fait, un personnage de roman, il faut voir quel est son objectif. Là, l'objectif de Bastet, c'est régner sur le monde. Après, bon, il y a des petites étapes intermédiaires dans lesquelles elle doit faire comprendre aux autres qu'elle est supérieure à tout le monde. Mais pareil, toute personne qui a un chat a compris que ce chat, quelque part, soit il nous tolère, soit il nous méprise. Mais en tout cas, il considère qu'il comprend plus de choses que nous.
Et la connaissance, c'est forcément quelque chose qui sert à avancer dans la civilisation et donc dans une sorte de progrès de la démocratie comme ça et de l'harmonie. Ou est-ce que ça peut être utilisé aussi comme une arme et puis pour des projets plus vils ?
La clé, en effet, comme vous le dites, c'est la connaissance. C'est-à-dire celui qui a le savoir va arriver à maîtriser les autres. Et ça, Bastet l'a bien compris. dès le moment où elle a branché sa clé USB sur un ordinateur, qu'elle a eu accès à Google, à Wikipédia et à tout ça, elle s'est dit, oh là.
La clé USB qui est connectée à son cerveau.
Voilà, qui est connectée à son cerveau. Elle s'est dit, là, c'est ça qu'il faut préserver, car l'espèce qui aura accès à tout le savoir qu'il y a sur Internet pourra régner. Et d'ailleurs, les rats l'ont aussi compris, puisque son rival, qui s'appelle Tamerlan, a lui aussi comme ambition de pouvoir se brancher sur Internet et d'avoir accès à toutes ces connaissances. Mais vous savez, c'est l'une des idées que vous exprimiez tout à l'heure, la révolte des encyclopédistes. Ceux qui détiennent les encyclopédies, d'abord, les grandes révolutions sont faites grâce à la connaissance, c'est-à-dire à une mise à plat de ce qu'on sait d'une époque. Par exemple, en France, on voit la période des Lumières, c'est le moment où il y a Diderot et toutes les encyclopédistes. Mais celui qui arrive à poser à plat les connaissances et dire, voilà, on en est là, maintenant essayons de faire mieux, celui-là prend le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et la pire chose qui puisse arriver à l'humanité, c'est de perdre ses connaissances et d'être obligé de revenir à une période barbare. Et c'est pour ça que même maintenant, on assiste à un choc, j'allais dire, entre les encyclopédistes et les barbares qui veulent qu'on retourne à l'obscurantisme.
En parlant de connaissances, je l'ai dit tout à l'heure, on retrouve l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Il y a parfois des articles qui surgissent dans le roman, des articles de cette encyclopédie que vous avez inventée il y a longtemps, qu'on suit, qui revient souvent dans votre œuvre. Et on peut aussi acheter d'ailleurs l'encyclopédie à part, avec tous les articles dedans, qui est sans cesse mise à jour. Vous nous racontez par exemple l'histoire du chat Oscar qu'on retrouve dans ce tome-là. J'ai beaucoup aimé.
C'est le chat qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Je vais essayer de le faire vite. C'est un chat qui était dans un sous-marin allemand. Le sous-marin a été détruit, donc il a été récupéré par les Anglais. Et à peine ce chat était dans le bateau anglais, il a été lui-même détruit par un autre sous-marin allemand qui l'a récupéré, qui a été attaqué par un autre bateau anglais. En fait, il a fait des allers-retours sur 4 ou 5 bateaux. Et chaque fois qu'il est dans un bateau, le bateau est détruit. Il n'y a que lui qui s'en tire en restant debout sur une planche ou sur un débris alors que tous les humains sont morts. Moi, je serais marin, je ne le prendrais pas dans un bateau parce que visiblement, il attire les emmerdements.
C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs à la fin. Au bout du troisième, ils ont dit c'est terminé. Il ne monte plus sur un bateau, on le met dans les bureaux.
Voilà, on lui a mis une médaille en disant que c'est le chat qui avait survécu à toutes les batailles navales et il est mort tranquillement de vieillesse en ayant survécu à plusieurs naufrages.
En parlant de chat.
Tu n'avais pas à t'en prendre, mais haricot, tu m'as fait rater une chance de trouver les œufs d'or, mi amigo. Bat-toi, c'est un chat. Battle de danse le mardi soir? Aucun problème. Si c'est une battle de danse que tu veux, je vais te battle danser le mardi soir jusqu'à ce que tu rendes l'âme.
Bat-toi si t'es un chat, moi j'adore. C'est le chapeauté des personnages secondaires des cycles de Shrek. Et il a même ses films à lui maintenant. Bernard Werber, c'est vieux comme la littérature, mais vous utilisez alternativement les animaux comme métaphore des humains, comme dans La ferme des animaux, dans le livre de la jungle, mais aussi pour ce qu'ils sont et en opposition parfois au genre humain. Quel est l'intérêt aujourd'hui de la fable en tant qu'outil littéraire? Est-ce que ce sont des fables, d'ailleurs, à partir du moment où on utilise des animaux?
Oui, alors je suis un fan de La Fontaine, que je trouve un très bon géopoliticien et un grand philosophe. Au-delà des... C'est dommage qu'on l'apprenne, d'ailleurs, quand on est jeune, parce que du coup, on ne perçoit pas toute la dimension politique qu'il y a derrière. Le grand avantage des animaux, c'est de faire un pas de côté. Si on n'est que des humains qui parlons de problèmes humains, au bout d'un moment, on tourne en rond, on reproduit des textes qui ont déjà été faits, et puis c'est très difficile d'avoir une vision originale. À la limite, on va être tout de suite de gauche ou de droite, on va être tout de suite pour le nord ou pour le sud, on est tout de suite étiqueté. Mais là, quand vous êtes un chat ou quand vous êtes un rat, vous ne pourrez pas être politiquement suspect. Et un chat qui va voir, par exemple, comme c'est le cas dans Demain les chats, un type, un fanatique, un terroriste fanatique qui rentre et qui tue d'autres humains, lui, il ne sait pas pourquoi il le fait, il se dit juste c'est un humain qui tue d'autres humains. Et là, il se pose des questions, pourquoi il fait ça? Et je trouve bien, au-delà de tout de l'émotionnel, du politique et de tous les systèmes d'automatisme, de ramener ça à qu'en penserait quelqu'un qui n'est pas humain? Un extraterrestre, une fourmi, un dauphin, que penseraient des actualités que nous voyons et qui nous mettent dans de tels états tous les matins et tous les soirs? Qu'est-ce qu'il en penserait, sachant qu'il ne nous aime pas forcément? Et ma chatte Bastet, elle a rien pour les humains, si ce n'est qu'elle essaie de comprendre la logique qu'il y a derrière notre comportement.
Sauf que dans vos fables à vous, il y a du grand spectacle. Et alors là, on arrive à New York, vous vous êtes amusé, hein. C'est à l'américaine justement. Il y a des batailles, des robots même, vous n'êtes pas allé avec le dos de la cuillère, il y a même Hillary Clinton. C'est ça aussi ce qui est quand même jouissif quand on est écrivain.
Exactement.
C'est qu'on peut se permettre absolument tout ce qu'on veut.
Ben, la pauvre Hillary Clinton, j'ai trouvé que quelqu'un a perdu les élections. Tout d'un coup, on l'a mis à la naphtaline et puis elle a disparu. Et je me dis, attends, on avait de la Hillary Clinton tous les jours et puis tout d'un coup, on n'a plus rien. Donc j'ai imaginé que, profitant de la crise, elle se dise, ben, tiens, c'est le moment de faire un comeback et qu'elle se retrouve à diriger la petite communauté humaine survivante. Mais elle agit toujours pareil. C'est-à-dire, elle pense à sa carrière et elle pense à rester au pouvoir. Et ça m'amusait de montrer ce système de limitation de la pensée.
Et les grandes batailles, les effets spéciaux et tout.
Ça, c'est pour m'amuser moi-même à la relecture.
Quand on commence un truc comme ça, on dit « Allez, tiens, et hop, et j'en rajoute. »
Exactement.
Allez, c'est
ben, comme dans les saisons, quand vous regardez la saison de Game of Thrones, chaque fois, ils doivent mettre la barre un peu plus haut parce qu'on a déjà vu la saison précédente et on s'est dit « Est-ce qu'ils peuvent faire mieux ?» Donc là, mon premier roman, Demain les chats, ça se passait dans Paris. Le deuxième, ça se passe dans Paris et jusqu'à l'Atlantique, donc toute la France. Et le troisième, je me suis dit, on va aller aux États-Unis et là, on va rajouter des effets spéciaux, des figurants, des visuels et on va faire un grand, grand film, de telle manière que les gens puissent, et cet effet d'évasion en cette période où ils sont confinés chez eux, ils puissent s'évader, en tout cas par les décors.
Et je rappelle le titre de ce troisième opus, La planète des chats. C'est chez Albin Michel. Merci Bernard Werber. Vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le livre culte. Et vous ne voulez quand même pas manquer ça. C'est La planète des singes, justement, que l'on va lire. À tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Bernard Werber et son nouveau roman La planète des chats, référence directe à La planète des singes, bien sûr, tout le monde connaît, grâce au cinéma.
Le monde inconnu qu'il découvre dans l'espace défie tout ce que l'esprit peut concevoir. Une planète où les êtres supérieurs sont les singes. Où les singes construisent les cités, fixent les lois et les divinités. Possède les armes pour chasser les êtres humains terrifiés et traqués au fond des jungles. Mis en cage ou exhibés dans les musées. 20th Century Fox a porté à l'écran La planète des singes.
Voilà pour le film. C'est la version de 1968 de Franklin Schaffner avec Charlton Heston. Mais La planète des singes, c'est d'abord un roman d'un certain Pierre Boulle, qu'on a un peu oublié, publié en 63, énorme succès, je ne vais pas vous faire l'article, vous connaissez, des hommes donc perdus dans l'espace qui tombent sur cette planète peuplée et dominée surtout par les singes. Les humains sont mis en cage et nos héros aussi pour des expériences scientifiques, pour essayer de voir si on a quand même un peu une forme d'intelligence, nous les humains. C'est Ulysse Mérou, le héros, c'est lui qui raconte, évidemment, comme tout bon roman de SF, c'est un livre qui parle de l'humanité et de ses dérives, pas vraiment des singes. Et puis, il y a la fin du livre. Ça, je ne vous la dis pas pour ceux qui ne l'ont pas lu ou vu, mais enfin, elle se classe dans le top 3 des meilleures fins de romans de tous les temps, au moins. Voici le début, la toute première page, lue par le comédien Philippe Dussault.
Jean et Phyllis passaient des vacances merveilleuses dans l'espace, le plus loin possible des astres habités. En ce temps-là, les voyages interplanétaires étaient communs, les déplacements intersidéraux non exceptionnels. Les fusées emportaient des touristes vers les sites prodigieux de Sirius ou des financiers vers les bourses fameuses d'Acturus et d'Aldébaran. Mais Jean et Phyllis, un couple de riches oisifs, se signalaient dans le cosmos par leur originalité et par quelques grains de poésie. Ils parcouraient l'univers pour leur plaisir à la voile. Leur navire était une sorte de sphère dont l'enveloppe, la voile, miraculeusement fine et légère, se déplaçait dans l'espace, poussée par la pression des radiations lumineuses. Un tel engin, abandonné à lui-même dans le voisinage d'une étoile, assez loin cependant pour que le champ de gravitation ne soit pas trop intense, se dirigera toujours en ligne droite dans la direction opposée à celle-ci. Mais comme le système stellaire de Jean et Phyllis comprenait trois soleils, relativement peu éloignés les uns des autres, leur embarcation recevait des coups de lumière suivant trois axes différents. Jean avait alors imaginé un procédé extrêmement ingénieux pour se diriger. Sa voile était doublée intérieurement par une série de stores noirs qu'il pouvait enrouler ou dérouler à volonté, ce qui changeait la résultante des pressions lumineuses en modifiant le pouvoir réflecteur de certaines sections. De plus, Cette enveloppe élastique pouvait se dilater ou se contracter au gré du navigateur. Ainsi, quand Jean désirait accélérer l'allure, il lui donnait le plus grand diamètre possible. Elle prenait alors le souffle des radiations sur une surface énorme et le vaisseau se précipitait dans l'espace à une vitesse folle qui donnait le vertige à son ami Phyllis. Un vertige qui le saisissait à son tour et qui les faisait s'étreindre passionnément, le regard perdu au loin vers les abîmes mystérieux où les entraînaient leur course. Quand, au contraire, il désirait ralentir, Jean appuyait sur un bouton. La voile se rétrécissait jusqu'à devenir une sphère juste assez grande pour les contenir tous deux, serrés l'un contre l'autre. L'action de la lumière devenait négligeable et cette boule minuscule, réduite à sa seule inertie, paraissait immobile, comme suspendue dans le vide par un fil invisible. Les deux jeunes gens passaient des heures paresseuses et enivrantes dans cet univers réduit, édifié à leur mesure pour eux seuls, que Jean comparait à un voilier en panne et Phyllis à la bulle d'air de l'araignée sous-marine.
La voix est libre. Nicolas Caro.
C'était la première page de La planète des singes de Pierre Boulle. Ensuite, Jean et Phyllis vont tomber sur le message de Ulysse Mérou, qui est le narrateur et héros du livre. Bernard Werber, vous êtes toujours avec nous, ouais, avec votre livre La planète des chats, qui est donc un hommage aussi à La planète des singes, j'imagine.
Ouais.
Mais quel est votre roman culte à vous ?
Alors, j'ai raconté quelque chose sur La planète des singes, c'est que quand Pierre Boulle est mort, j'ai voulu faire une nécrologie à l'époque dans le magazine où je travaillais. Et alors je dis, je voudrais faire la nécrologie de Pierre Boulle. Il me dit, c'est qui Pierre Boulle ? Alors je dis, Pierre Boulle, c'est La planète des singes. Et ils étaient persuadés que c'était un film américain. Mais ils ne savaient pas que ça venait d'un auteur français. Je dis, c'est aussi lui qui a fait Le pont de la rivière Kwai. Et il est mort à Paris, sur les Champs-Élysées. Et j'ai vu qu'il n'y avait pratiquement aucune nécro. C'est-à-dire qu'en France, c'est comme si on ne savait pas que cet auteur existe. Et il est connu qu'aux États-Unis et dans le reste du monde. Et il nous revient en tant que produit américain. C'est quand même dommage qu'il y ait cet ostracisme envers tout ce qui ressemble de près ou de loin à la science-fiction. Je pense que Pierre Boulle, dans 150 ans, ça aura encore du sens. Et un petit coucou à son souvenir.
C'est dingue que vous disiez ça, parce que je ne voulais pas rentrer là-dedans. Mais c'est exactement ce que je pense, enfin ce que j'ai constaté. Pierre Boulle n'existe pas alors qu'il a créé des monuments littéraires. Comment vous l'expliquez ? Ça, c'est un constat, mais pourquoi ?
Je crois
comment c'est possible ?
Après Jules Verne, on a décidé que la science-fiction, c'était un truc des anglo-saxons et que nous, les Français, on devait rester dans l'introspection psychologique.
Oui, mais psychologique. Vous, on vous connaît, Bernard Werber. On dit Bernard Werber, les fourmis, oui, on est d'accord.
Il y a des articles dans lesquels on pense que je suis un auteur américain, ce qui montre qu'en fait, je ne suis pas si connu que ça en France, mais c'est lié aussi au genre. Et quand j'étais journaliste scientifique, j'ai pu me rendre compte que souvent, les journalistes venant de fac littéraires, on leur a formaté la tête pour leur dire tout ce qui ressemble de près ou de loin du fantastique ou de la science-fiction, ce n'est pas de la vraie littérature, c'est la littérature pour les jeunes. Avec tout ce que ça sous-entend comme côté péjoratif, c'est-à-dire, ouais, c'est du délire, quoi.
Oui et non, parce qu'on parle beaucoup de la science-fiction américaine, quand même. Donc ouais, c'est qu'on ne veut pas l'associer à la France.
Voilà. On a considéré qu'on a perdu cette bataille. De toute façon, il y a très peu de représentations de la science-fiction française qui est exsangue et qui est un petit ghetto qui malheureusement n'arrive pas à être visible. Mais moi, j'aurais aimé être un bateau qui ouvre un peu le chenal pour qu'il y ait réellement une nouvelle génération d'auteurs de fantastique, de science-fiction, d'imaginaire. Mais c'est vraiment difficile parce que toutes les portes sont fermées depuis très longtemps.
Et maintenant, on salue Alain Damasio s'il nous écoute.
Oui.
C'est aussi un grand représentant de la littérature de science-fiction.
Quel est du travail.
Votre roman culte à vous ?
Alors, mon roman culte, c'est Des fleurs pour Algernon de Danny Kaye. Parce que quand je l'ai lu, alors là, je me suis dit, quel dommage que je n'ai pas eu cette idée-là. Il y a une chose qui m'a troublé dès la première page, c'est que c'est rempli de fautes d'orthographe et que la faute d'orthographe font partie de l'intrigue.
Voilà.
Et le traducteur a dû faire un travail extraordinaire parce qu'il fallait faire des fautes d'orthographe qui montrent que la personne ne comprend pas ce qu'elle dit. Donc c'est non seulement une performance romanesque et une performance d'intrigue, mais aussi une performance de traduction.
Voilà. Vous nous racontez l'histoire.
Vous voulez que je vous raconte vite fait ? C'est l'histoire de quelqu'un de bête qui souffre de débilité mentale maladive, sur lequel on fait un test, on lui donne des produits pour qu'il devienne plus intelligent et on lui demande de raconter à la première personne du singulier son éveil. Et donc il a pour exemple une petite souris qui s'appelle Algernon, sur lequel on a déjà testé ce traitement. Et la souris est de plus en plus rapide pour sortir des labyrinthes et lui fait la course avec la souris pour voir si son cerveau s'améliore. Et au fur et à mesure qu'il devient intelligent, on voit apparaître le vocabulaire, on voit apparaître le style, l'intérêt de la virgule. C'est-à-dire qu'il écrit de mieux en mieux. Et après avoir rejoint la normalité, il devient un génie. Mais seulement, au fur et à mesure qu'il devient génial, en fait, il devient malheureux. Parce que, comme dit le proverbe, Beati pauperi sunt, heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Au fur et à mesure qu'il devient intelligent, il comprend qu'on le manipule pour faire de lui juste un cobaye, et ça le rend malheureux.
Et tous ceux qui lisent ce livre sont assez bouleversés en général de cette lecture. Des fleurs pour Algernon de
Danny Kays.
À suivre, visite de bibliothèque, rendez-vous chez André Comte-Sponville dans un instant. À tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Caro.
La Voix et Livre continue une nouvelle page. On sort un peu du studio à la rencontre d'André Comte-Sponville. Il publie le Dictionnaire amoureux de Montaigne chez Plon. C'est évidemment aussi un amoureux des livres. J'ai profité de l'occasion pour visiter sa bibliothèque. Allons-y. Bonjour André Comte-Sponville.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous à Paris. Et je dois dire que, bon, ben voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais il y a vous avez ce que je déteste le plus au monde, c'est-à-dire une maison de campagne. Et vous devez être le 15e ou le 16e, la 16e personnalité que je visite et qui me dit « J'ai quelques livres à Paris, mais les 9 dixièmes sont dans ma maison de campagne. » C'est le cas pour vous aussi?
Oui, c'est le cas, bien sûr, parce que quand on se loge à Paris, on est toujours logé un peu à l'étroit, malheureusement. Ici, je n'ai pas de bureau, je travaille dans le salon, comme vous pouvez voir. Et donc, c'est vrai que je n'ai là que les livres essentiels, enfin, ceux qui sont là par hasard, parce que je les ai reçus il y a peu de temps, ce sont des cadeaux, que sais-je. Et puis, bon, ceux dont je ne me sépare jamais, c'est-à-dire que j'en ai plusieurs exemplaires, plusieurs éditions ici, plusieurs éditions en Normandie, mais qui sont peu nombreux. Il y a Montaigne, Descartes,
on va les regarder un par un.
Pascal, Spinoza.
Voilà. Parfait.
Ceux-là, ils sont toujours présents où que je sois, j'ai toujours leurs œuvres complètes. Les autres, c'est quand même beaucoup moins important.
Et je décris un peu quand même le lieu. On est dans un petit appartement avec un parquet qui grince. Alors ça, j'aime beaucoup. Et puis là, on est dans le salon. Effectivement, il y a votre ordinateur posé sur la table de salle à manger, en fait, quoi. Et puis derrière vous, il y a une petite étagère avec tout un tas d'archives. On reconnaît éventuellement même des titres de certains de vos livres. Épreuve d'ICO. Bon, il y a quelques factures aussi.
Et oui, ce sont les contingences de la vie matérielle.
Et puis, il y a des tableaux partout. Et vous m'avez dit tout à l'heure que c'était en fait votre femme.
Ma compagne, Sylvie Thibert, est artiste peintre et donc portraitiste, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous reconnaissez les 6 personnages qui sont là.
Alors là, attendez, il y a Proust à droite. Là, ça doit être Anna Arendt au milieu. Là.
Non, c'est Simone Veil.
Simone Veil, là, avec un W. En bas, c'est... Ah, comment il s'appelle? Philosophe...
Cher ami Todorov, qui est mort, voilà. Il y a quelques années, malheureusement.
En bas à gauche, je sais qui c'est, mais je ne me rappelle plus.
Eti Ilsoum, merveilleuse femme, morte à Auschwitz en 1943.
Et alors là, il faut m'aider en
haut
à gauche.
C'est Paul Valéry, bien sûr.
Paul Valéry. Oh là.
Et en bas à droite, c'est Virginia Woolf.
Ah ben oui, superbe ça. Mais pourquoi ces 6-là?
Mais parce que Svetan était l'un de mes tout meilleurs amis, donc c'est en mémoire de lui. Les autres, c'est des gens que j'aime infiniment, puis que Sylvie, ma compagne, avait envie de peindre. Voilà, donc c'est pas non plus un choix doctrinal, hein, mais ce sont 6 personnes pour qui j'ai beaucoup d'admiration, spécialement Simone Veil et Eti Ilsoum, qui sont mortes la même année, en 1943, toutes les deux d'origine juive, laïque. Toutes les deux mortes très près du christianisme, toutes les deux géniales, toutes les deux bouleversantes. Sauf que Simone Veil, quand on la voit en photo, on a le sentiment qu'elle est totalement inhibée, qu'à la limite, elle n'a pas de corps, ou elle fait le tout pour le masquer. Alors qu'Eti Ilsoum, quand on la voit en photo, est resplendissante de vie et de sensualité. Et donc, j'admire les deux, mais évidemment, j'ai plus de tendresse pour Eti Ilsoum.
Alors ça m'arrange bien, parce qu'il y a donc un portrait de Proust et de Virginia Woolf. Or, ici, vous m'avez confié, en arrivant à mon grand désespoir, que vous aviez très peu de romans, en fait. Les romans sont en Normandie, justement. Mais donc, vous êtes un lecteur de Virginia Woolf et Proust?
Oui, bien sûr, Proust a changé ma vie. D'abord, me faisant renoncer à devenir romancier. Parce que moi, quand j'étais jeune, vraiment enfant, adolescent, j'étais un grand lecteur. Et évidemment, je ne lisais que des romans, parce qu'à cet âge-là, on ne lit que des romans. Et comme je voulais écrire, j'envisageais de devenir romancier. C'était vraiment ma vocation à 10 ans, 12 ans, je voulais être romancier. Et puis, il s'est passé 2 choses. La première chose, c'est qu'en cours de route, à 17, 18 ans, j'ai découvert la philosophie et que ça m'a paru encore plus intéressant que la fiction. Au fond, je me suis dit, à quoi bon inventer des histoires alors que la vie telle qu'elle est déjà tellement passionnante. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai commis l'erreur de lire coup sur coup « Le voyage au bout de la nuit et mort à crédit » de Céline et « La recherche du temps perdu » de Proust. Et ces deux sommets,
c'était trop.
Je me suis rendu compte que je ne serais jamais à la hauteur. Vous voyez, et donc j'ai renoncé parce que je savais que d'évidence, je ne ferais jamais aussi bien que ces deux-là, qui sont fort différents par ailleurs. Mais ça m'a un peu découragé. Alors que bizarrement, quand je lisais les philosophes, y compris les grands philosophes, je me sentais moins incapable de suivre leur chemin.
Mais est-ce que vous en êtes revenu depuis, vous êtes revenu au roman ?
Non, j'en lis peu. Enfin, je lis des fois des polars, comme tout le monde, pour me délasser ou dans un train ou pour m'endormir. Mais les grands romans, j'en lis peu. Non, je lis ceux que mes amis romanciers m'envoient. Hein. Par exemple, ceux de Christian Bobin, que vous avez vu tout à l'heure, ceux d'Eric Emmanuel Schmidt, ceux de mon ami Nancy Houston, que je lis d'ailleurs avec plaisir. Mais c'est vrai, j'ai perdu le goût de la fiction. Et puis, il faut dire aussi que moi, les romans que j'aimais le plus et ce que j'envisageais d'écrire au départ. Mon modèle absolu, c'était Alexandre Dumas. Je voue un culte à la trilogie des Trois Mousquetaires, avec la suite, 20 ans après, le vicomte de Bragelonne, spécialement le personnage d'Athos, et depuis toujours mon personnage de fiction préféré. Je viens d'écrire un texte sur Athos pour le cahier de Lerne, Alexandre Dumas, qui va sortir dans quelques semaines maintenant. Et sauf que pour écrire les Trois Mousquetaires, il faut une imagination de fou, si vous voulez. Or, justement, il me semblait que cette imagination-là, je ne l'avais pas. Et donc, j'aurais pu faire, à la limite, un nouveau roman un peu ennuyeux et éventuellement bien écrit, vous voyez, mais faire un roman qui m'aurait plu comme lecteur, c'est-à-dire un roman passionnant avec des aventures, des personnages étonnants, ça, je m'en suis finalement assez vite senti incapable. Et puis, je ne le regrette pas trop parce que en cours de route, donc, j'ai quitté la fiction pour la philosophie, et puis en cours de route, j'ai rencontré Montaigne, qui m'a montré qu'on pouvait être à la fois philosophe et écrivain. D'ailleurs, je viens de publier, comme vous le savez, un dictionnaire amoureux de Montaigne. Et cette rencontre chez Montaigne du génie littéraire éblouissant et de la profondeur philosophique, ça m'a fait un petit peu virer ma cutie. Et au fond, si je devais prendre un modèle aujourd'hui, ça ne serait ni un romancier, ni un pur philosophe à la façon de Spinoza ou de Leibniz, mais sans doute Montaigne.
Il y a beaucoup de livres de philosophes célèbres. Il y a notamment Spinoza et Lucrèce que je vois là et qui sont deux livres extrêmement abîmés.
Ils ont beaucoup servi. Et encore dans les deux cas, j'ai plusieurs éditions. Donc,
voilà, c'est une version pléiade des œuvres complètes de Spinoza. Elle a morflé.
Le livre tomberait en morceaux. Oui, c'est peut-être bien les deux auteurs avec Montaigne et Pascal que j'ai le plus travaillé. Alors, c'est pourquoi ils sont côte à côte. Vous voyez, ce n'est pas un classement historique. Dans ma maison de Normandie, les auteurs sont classés par ordre chronologique. Donc, on commence par la Grèce et on termine par le 21e siècle. Mais ici, c'est plutôt par ordre affectif.
Spinoza, la version des œuvres complètes en Pléiade, il y a des... Vous surlignez au bic de différentes couleurs.
Oui,
ça dépend. Et même au feutre. Vous n'êtes pas ce genre de...
Je n'ai aucune superstition.
D'étudiant qui prend un crayon de bois plutôt, un crayon à papier.
Pas du tout. Ça m'est totalement indifférent parce que ce qui compte, ce n'est pas le papier. Ce qui compte, c'est l'œuvre, si vous voulez. Et donc, vous voyez, en plus, ce livre de la Pléiade, ce n'est pas celui que j'ai le plus utilisé. Je l'ai plutôt... Spinoza dans l'édition Garnier Flammarion, mais oui, bien sûr, j'écris sans aucune honte, sans aucune gêne, que ce soit au stylo aux billes, au stylo aux plumes ou éventuellement au crayon.
Alors, en vous entendant parler, justement, ça me fait penser à un problème qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, c'est avec ces montagnes de livres de développement personnel qu'on a partout. Quelle est la différence entre un livre de développement personnel d'un coach lambda et les lettres d'Épicure ou un grand philosophe ou Montaigne, etc.
D'abord, les livres de développement personnel, je pense que c'est comme les autres, il y en a des bons et des moins bons. C'est vrai aussi des livres de philosophie. Mais je crois que la différence principale, c'est que pour la philosophie, ce qui compte, c'est d'abord la vérité. Pour le développement personnel, ce qui compte, c'est d'abord l'efficacité. Je me souviens par exemple d'un débat à la télévision que je faisais avec mon ami Christophe André, le psychiatre, que j'imagine vous ranger dans les livres de développement personnel. Et je disais à la télévision, au fond, pour le philosophe, mieux vaut une vérité qui fait du mal qu'une illusion qui fait du bien. Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Et Christophe André, un peu embarrassé, me dit, oui, mais quand même, pour moi, comme thérapeute, c'est différent. Je dis, ben oui, bien sûr. Tu n'es pas en charge de la vérité de tes patients. Tu es là pour les aider à vivre un peu mieux. Moi, je ne suis pas en charge de la santé de mes lecteurs. Je suis là pour les aider à réfléchir un peu mieux. Autrement dit, pour ce qui est de la philosophie, la quête de la vérité l'emporte de très, très loin sur la quête du bonheur. Alors que dans le développement personnel, me semble-t-il, la quête du bonheur l'emporte sur la quête de vérité. En vérité, dans les bons livres, évidemment, on essaye de faire qu'il y ait les deux. Parce que si le développement personnel, c'est la méthode Coué, raconter des mensonges ou des illusions, ça ne vaut pas tripette. Mais moi, je n'ai pas de mépris et ni de condescendance pour ce qu'on appelle le développement personnel. Ce n'est pas clairement ce que je fais. Mais ces auteurs, je pense à Christophe André, font du bien à leurs lecteurs et sans leur raconter d'histoire, sans leur mentir. Et je me demande au nom de quoi il faudrait le leur reprocher.
Et pareil pour la philosophie, on n'est pas obligé de s'emparer que des thèmes qui vont vers une vérité triste, mais on peut aussi s'en servir pour une sorte d'hygiène de vie, en tout cas, ou de gymnastique.
Le but de la philosophie, mais comme de toute activité humaine, c'est bien sûr le bonheur, vous voyez. Mais encore une fois, si le philosophe a le choix entre une vérité et un bonheur, il n'est philosophe qu'en tant qu'il choisit la vérité.
Il y a beaucoup d'auteurs grecs, et comment vous expliquez-vous qu'aujourd'hui encore, en 2020, donc 2300, 2400 ans après eux, on continue de les étudier, de penser avec eux?
C'est quand d'abord parce que ce sont des génies, hein. Et ensuite parce que la philosophie ne,
ça ne vieillit pas, pardon.
La philosophie ne progresse pas, au contraire des sciences. C'est-à-dire que personne ne va essayer de faire de la physique avec Thalès, je ne sais quoi, ou même avec Newton. On sait bien que c'est dépassé par le progrès des sciences. En philosophie comme en art, il n'y a pas de progrès. Aucun musicien vous dira ce que je fais, c'est mieux que ce que fait Bach, Mozart ou Beethoven. Eh bien, aucun philosophe ne vous dira ce que je fais, c'est mieux que ce que faisaient Platon, Aristote, Spinoza ou Kant. Et comme il n'y a pas de progrès, une œuvre du passé n'est jamais dépassée. Alors que dans les sciences, toute œuvre du passé est dépassée par le progrès même. Et puis après, il y a la question du génie de tel ou tel auteur. Il y a des choses qui ont été dites par les Grecs, qui étaient dites pour la première fois à ce niveau de conceptualisation, qu'on peut bien répéter. Mais enfin, définitivement, ce sont eux qui leur ont dit le premier. Et donc, il y a aussi dans la pensée grecque, comme disait Lévi-Strauss, la grandeur qui s'attache au commencement.
Merci beaucoup, André Comte-Sponville. On a de quoi réfléchir, là. Merci beaucoup.
Merci à vous.
De retour en studio, je rappelle le titre du livre d'André Comte-Sponville, « Le dictionnaire amoureux de Montaigne, c'est chez Plon ». Et vous, Bernard Werber, alors je vais pas jouer la surprise. On a visité, il y a 3 ans maintenant, votre bibliothèque dans votre appartement. Mais rappelez-nous, comment elle est rangée? Est-ce qu'elle a évolué en 3 ans, d'ailleurs? Parce que je sais qu'elle est un peu évolutive, cette bibliothèque. Est-ce que vous avez rajouté beaucoup de choses, enlevé, trié, pendant le confinement, d'ailleurs, peut-être? C'était peut-être l'occasion.
À chaque confinement, je me dis, j'en profite pour ranger ma bibliothèque. Et pour l'instant, je ne l'ai toujours pas fait. Elle a évolué dans la mesure où j'achète beaucoup de livres et où j'en reçois aussi de la part de mes amis écrivains. Là, actuellement, je l'ai rangé par rapport à ma documentation pour le livre sur lequel je travaille, qui a beaucoup à voir avec le Moyen-Âge. Donc, j'ai beaucoup de documentation sur le Moyen-Âge. Voilà.
Quelle période du Moyen-Âge ?
1090 et 1120. Juste avant de venir, j'étais en train d'écrire une scène qui se passe à ce moment-là.
Et on a un petit scoop où je rêve, là. Votre prochain roman, c'est sur le Moyen-Âge.
Alors, je vais préciser une chose. J'écris toujours 2 romans et je ne sais pas lequel des 2 je vais publier. Mais en tout cas, ce que j'écrivais juste avant de venir, c'était, en effet, c'était sur le Moyen-Âge. Et c'est marrant parce que je croyais connaître cette époque. Et quand on se penche réellement sur, quand on regarde bien à la loupe ce qui se passait, en fait, on sait très peu de choses. Et en même temps, c'est très complexe. On a une vision un peu caricaturale du Moyen-Âge. C'est vraiment compliqué d'avoir, selon l'endroit où on se trouve, selon l'année précise où on se trouve. Et je m'émerveille de tout ce que je découvre.
Donc il y a 2 romans qui sont écrits, il n'y en a qu'un qui sera publié, mais l'autre, il passe à l'as complètement, ou il sera mis à jour, retravaillé pour éventuellement le publier plus tard?
Alors il est dans ce que j'appelle le congélateur. C'est l'endroit où je le ressortirai peut-être plus tard, mais en le refaisant tout à zéro. C'est-à-dire que j'ai juste fait une sorte de promenade de 400 pages sur une histoire, et après, de toute façon, je la reprendrai à zéro. Je ne ressors pas le congelé tel quel, je ne le livre pas.
Donc, peut-être le Moyen-Âge, nouveau roman de Bernard Werber. En attendant, il y a toujours La planète des chats chez Albin Michel. Dans un instant, vous restez avec nous, Bernard, hein. Mais dans un instant, nous partons quand même visiter une librairie cette fois, tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour de La Voix est libre, il est l'heure de rendre visite à un libraire pour un conseil. Des conseils, nous partons donc chez Stanislas Rigaud à la librairie Lamartine à Paris. Bonjour Stanislas Rigaud.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir à la librairie Lamartine. Vous avez 2 gros coups de cœur aujourd'hui, quels sont-ils ?
Alors le premier est un coup de cœur un petit peu tardif, parce que c'est un livre dont on parle beaucoup, beaucoup depuis plusieurs semaines, et à raison, c'est le Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle aux éditions Verdier, qui est un livre époustouflant. Hein, voilà. Gros choc. Alors, un gros choc d'émotion. L'histoire est d'une rare force. L'histoire, c'est un narrateur qui va vous expliquer que son frère vient de se pendre, c'est le début du livre, et ça va s'enchaîner sur la mort successive de sa mère et de son père. Donc vous voyez, bon, voilà, ça commence pas très bien. Autant vous dire que ça va pas vraiment s'améliorer par la suite, puisqu'on va explorer la malédiction familiale, grosso modo. Ça, c'est le récit, et le récit est bouleversant. Mais ce récit est orchestré de main de maître dans un livre qui va multiplier les formes. On va travailler en bribes, on va travailler avec des photos, on va travailler avec des textes manuscrits. C'est un bombardement d'émotions, mais donc aussi un bombardement de formes qui, moi, m'a laissé totalement chaos dans le bon sens du terme. Alors, effectivement, il y a un temps d'adaptation. C'est un livre qui n'est pas facile. Mais alors, si vous rentrez là-dedans, voilà, un vrai choc de littérature qui peut avoir une certaine postérité, soyons clairs.
C'est pas le plus joyeux.
Ce n'est pas le plus joyeux, mais c'est vraiment la force qui fait le livre. C'est-à-dire que malgré le poids de l'histoire, c'est vraiment, c'est presque une prière, presque une élégie, en fait.
Alors, le deuxième, j'aime beaucoup, et c'est un poche. Dites-nous, c'est David Gran.
Alors, David Gran, Le Diable et Sherlock Holmes aux éditions Point Seuil, un indispensable. Ça avait été un très gros coup de cœur de l'année dernière. Il sort en poche là, vous n'avez plus aucune excuse de ne pas lire ce livre, qui est le recueil de 12 formidables reportages d'un des plus grands journalistes américains vivants, David Gran, qui est aussi un des grands écrivains. C'est le monsieur qui a écrit notamment The Lost City of Z, adapté brillamment au cinéma par James Gray il y a quelques années. Et donc là, on a 12 grands reportages qui sont chacun à leur manière, un vrai roman. C'est-à-dire que ce n'est pas un recueil de nouvelles, ce n'est pas un recueil de reportages, vous avez l'impression de lire 12 romans tellement les textes sont denses. Alors on va passer d'un univers qui est par exemple la mort mystérieuse d'un spécialiste de Sherlock Holmes et qui est raconté comme une énigme de Sherlock Holmes, qui est absolument magnifique, c'est celle qui donne le titre au recueil. Mais vous avez aussi cette formidable histoire des Sandhogs, les hommes de sable, qui sont les gens qui construisent de génération en génération les tunnels qui permettent à l'eau potable d'arriver à New York. Il n'y a pas d'eau potable à New York et tous les jours, il faut faire venir 2,4 milliards de litres d'eau pour que cette ville vive. Et une ville sans eau, elle ne vit pas plus de 2 jours. Et c'est raconté, on plonge dans cette histoire, c'est éblouissant. Et donc chaque reportage a de quoi nourrir effectivement un imaginaire très riche. 3 ont déjà d'ailleurs fait l'objet de films. On a le dernier film de Robert Redford, Le vieil homme et le fusil, qui est un des recueils que vous trouvez ici aussi, une des nouvelles que vous avez ici. C'est indispensable. En plus, la couve est hyper réussie. J'adore ce livre.
C'est la formule américaine du journalisme, de ce genre de journalisme. C'est vrai, mais c'est raconté comme un roman avec une dose de subjectivité.
Exactement, c'est ce qu'on appelle la non-fiction, hein, ce terme américain qui est assez intraduisible en français. Mais voilà, tout est vrai, et en même temps, c'est littéraire, et en même temps, c'est brillamment construit. On peut remonter à Truman Capote.
Merci beaucoup, Stan.
Merci, Nicolas.
Retour à Europe 1, et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et cette semaine, c'est pas fondamentalement jeunesse, hein, mais vous remettez le couvert avec Stephen King. Évidemment, quand on reçoit Bernard Werber, on est aussi un peu obligé. Alors allez-y.
Et oui, avec deux romans, leur titre Brume pour le premier et Le Corps pour le second. Dans Brume, Stephen King nous embarque dans l'Amérique profonde. Le petit village de Bridgeton sur la côte est, un épais brouillard recouvre toute la ville. Billy et son père se réfugient dans un supermarché avec d'autres habitants.
Bonjour l'angoisse, j'adore ce roman.
Exactement, un huis clos angoissant avec quelques bestioles bien terrifiantes. On est aux frontières du réel, de l'imagination, de la folie. Ça c'est donc pour le premier roman. Et dans le deuxième, Le Corps, là on retrouve un gamin de 13 ans, Gordon Lachance, et ses 3 meilleurs amis qui profitent de leurs derniers jours de l'été. Ils apprennent que le cadavre d'un garçon disparu se trouverait près d'une voie ferrée. Ils mentent à leurs parents respectifs et partent à sa recherche. On n'est pas dans un roman d'horreur cette fois, c'est rare chez King pour le souligner, mais c'est un récit extrêmement intéressant, car très autobiographique.
Et c'est toujours angoissant, parfois même un peu gore, mais on peut le lire quand on est ado, il n'y a aucun problème.
Oui, alors ado, mais on va pas le conseiller dès 12 ans, hein, pas trop tôt. Ce sont des romans courts pour les deux, un peu moins de 300 pages. On retrouve les thèmes chers à l'auteur, le huis clos, on l'a beaucoup dit, l'angoisse, la menace inconnue, la fin de l'adolescence. Si vos ados ont bien aimé les romans chers de poule ou d'autres classiques fantastiques de la littérature jeunesse, essayez de leur acheter ces deux textes. Le problème, Nicolas, c'est qu'ils risquent de devenir accros à Stephen King. Et là, ce sera compliqué.
Et après, ça tient jusqu'à 95 ans.
Exactement.
On rappelle les titres de ces deux livres, Brume et le corps de Stephen King. C'est édité chez Albin Michel Jeunesse. Et vous, Bernard Werber, bon, vous adorez Stephen King, ça je sais, mais c'est quoi le premier roman que vous avez lu? Vous l'avez terminé, vous vous êtes dit « ça y est, je suis un grand, j'ai fini un livre ».
Alors c'est « La guerre des boutons » de Louis Pergaud, et j'ai adoré notamment les chorégraphies des batailles des enfants, et c'est peut-être ça qui m'a influencé ensuite pour mettre des batailles dans la plupart de mes livres. Même dans la planète des chats, il y a beaucoup de batailles chorégraphiées et c'est l'influence de la guerre des boutons.
Et qu'est-ce que vous vous êtes dit à l'époque quand vous avez fini ce livre ?
Il m'a fait basculer dans un monde parallèle qui a l'air similaire au nôtre, puisque ce sont juste des enfants, et qui a ses propres valeurs, son propre code. En fait, ce que j'attends d'un roman, c'est le côté, il y a un terme anglais qui s'appelle world building, création d'un monde parallèle, création d'un monde qui est comme le nôtre, mais un tout petit peu différent. Et je trouve que le world building dans Louis Pergaud est formidablement bien réussi, tout en étant complètement français et ancré dans notre culture.
Vous étiez boulimique de lecture quand vous étiez gamin, ou c'est venu plus tard ?
J'ai eu, après Louis Pergaud, la découverte de Edgar Allan Poe, et puis après Edgar Allan Poe, Jules Verne. Et là, Jules Verne, je me suis tapé tout Jules Verne, et j'étais boulimique de Jules Verne, précisément. C'est pas les livres en général. En général, je me fais un auteur que je creuse à fond. Et puis vers l'âge de 23 ans, j'ai découvert Philip K. Dick. Et là, je crois que de 23 ans à 30 ans, je ne lisais que Dick, exclusivement que Dick. C'est comme une addiction. D'abord, dès que je rentrais chez moi, j'avais envie de le lire. Et puis surtout, j'avais l'impression que tout le reste était fade et manquait d'imagination.
Voilà. Et ben moi, je vais vous dire, un des premiers romans que j'ai lus, c'est Les Fourmis.
Oh, merci, ça me touche.
Ça fait quelque chose quand même, quelques années plus tard, allez, une poignée d'années plus tard, de se retrouver avec Bernard Werber pendant une heure pour discuter. Merci beaucoup d'être venu, Bernard.
Merci à vous.
Et je rappelle le titre de votre dernier roman, La planète des chats, c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.